rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonsoir à tous. À l'approche des fêtes de fin d'année, alors que les rues scintillent, les sapins sont décorés et que l'on prépare les retrouvailles autour de la table, notre émission littéraire vous propose des idées de lecture qui vont illuminer votre temps libre. Aujourd'hui, Amy, Jessie et Vanessa, libraire à la librairie des signes, que nous avons la joie de recevoir pour la première fois, mais j'espère pas la dernière, et moi-même, nous allons vous présenter notre sélection de livres récents courant des registres variés, à glisser au pied du sapin. Au menu des romans, Les éléments de John Boyne, Un chien au milieu du chemin d'Isabelle Figueredo, Les secrets de l'huile de Walid Daka, Un ardent désir de peindre de Louis Mercadier et Quatre jours sans ma mère de Ramsès Kefi. De la fantaisie avec Catabasis de Rebecca F. Kyung, du polar avec Brûler tout de Christophe Molmy, et deux BD, La nuit est belle de David Graham et Aurélie Garino, et Sibylline de Sixtine Dano. On va commencer les festivités en partant en Irlande, avec Les éléments de John Boyne. C'est un auteur irlandais, donc reconnu notamment pour de très bons romans, Le garçon au pyjama rayé et Les fureurs invisibles du cœur. Et ce roman, Les éléments, son dernier, vient d'obtenir le prix du roman FNAC. Et je comprends pourquoi, parce qu'il est très bien. Il se compose de quatre récits, à la fois successifs et entremêlés. Les personnages y sont reliés entre eux, et surtout, un thème commun les rassemble, celui de l'abus sexuel. Chaque récit s'articule autour d'un élément, l'eau, la terre, le feu et l'air. L'auteur dissèque ce sujet en abordant toutes ses facettes, les victimes, les témoins silencieux, ceux qui souffrent, ceux qui soignent, et ceux qui commettent l'irréparable. John Boyne ne se contente pas de raconter la violence. Il en explore les conséquences sur l'entourage, qu'il s'agisse de honte, d'humiliation, de culpabilité d'avoir laissé faire ou de n'avoir rien vu, et même la complicité. Il met en lumière tout ce système qui invalide les témoignages et perpétue la souffrance. Le style est sobre, précis et d'une grande fluidité. Le roman avance par glissement, sans pathos, mais avec une analyse fine des blessures intimes et une tendresse délicate pour la fragilité humaine. On entre dans le roman avec le très beau personnage de la première histoire, Vanessa Carvin, qui a fui sur une île irlandaise pour s'isoler suite à l'incarcération de son mari pour une retentissante affaire de pédocriminalité. Changement de vie, de nom, d'apparence, pour faire le deuil et échapper aux médias. Le récit le plus marquant, celui de Freya, une chirurgienne brillante qui, en parallèle de son métier, commet l'irréparable, comme une vengeance de ce qu'elle a subi enfant. Après ce chapitre de feu, parfois éprouvant, dérangeant, le roman se termine sur une note plus légère, du moins plus aérienne et optimiste, avec le quatrième chapitre, intitulé « Air », et se déroule pour une grande partie dans un avion. Mais je vous laisse savourer les mystères de ces éléments, dans ce roman intense et captivant, qui ne laissera personne indifférent. On va parler de BD maintenant avec Jessie.
Eh oui, alors asseyez-vous, éteignez la lumière et laissez-vous embarquer dans une virée nocturne. Pas celle de Before Sunrise, ni celle de Midnight in Paris, quoique. Mais celle imaginée par David Graham et Aurélie Garino dans La nuit est belle. La nuit est belle, c'est une BD que j'ai lue avec un sourire du début à la fin. Pas parce que tout est parfait, mais parce qu'elle fait du bien. Et franchement, on en a besoin. On y suit Jean et Lucie, deux inconnus coincés à Paris le temps d'une nuit. Et à partir de là, tout devient possible. La ville s'ouvre, les rencontres s'enchaînent, les discussions partent dans tous les sens. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Et vous voyez, ces moments où tout part en cacahuète justement. Ben, c'est comme moi, en fait. Voilà, donc tout part dans tous les sens. Et on suit ces deux personnages qui vont faire des rencontres inoubliables. La ville devient un terrain de jeu où chaque coin de rue semble poser une question. Et si ? Et oui, on dit toujours « et si j'avais su », etc. Eh bien voilà, c'est exactement ça. Une nuit pleine de rencontres improbables, de discussions qui dérapent, de situations loufoques et même d'un fantôme, celui d'Oscar Wilde. Oui, Oscar Wilde. On est dans une BD, on peut tout se permettre, tout est possible. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'accueil qu'elle a reçu auprès des lecteurs, de nos lecteurs des bibliothèques justement. Beaucoup m'ont parlé d'une BD chaleureuse, légère, mais jamais superficielle. On sent qu'elle touche parce qu'elle parle de choses très simples, le hasard, les choix faits sur un coup de tête. Ces nuits qui ne bouleversent pas toute une vie, mais qui laissent quelque chose, une empreinte. Graphiquement, c'est très fluide, très vivant, les couleurs sont lumineuses, la mise en scène donne presque l'impression de regarder un film qui se déroule sous nos yeux. Paris est omniprésente, mais jamais écrasante. Elle devient un décor complice. Personnellement, j'ai adoré cette sensation de mouvement constant, cette impression que la nuit respire. C'est une bande dessinée qui se lit facilement, qui donne envie de flâner, de ralentir, de se laisser porter. Une lecture douce, joyeuse, un peu magique, parfaite pour s'évader.
Merci Jessie.
Merci à toi.
Rémi, tu veux nous parler de Katabasis, la fantaisie ?
Oui. Alors effectivement, pour vous resituer un peu le fil rouge qui m'a guidée pour ces deux présentations, ces deux recommandations aujourd'hui je vais vous présenter. Alors j'ai choisi deux romans, dont celui que je vais présenter tout à l'heure, qui va vous apporter en fait une réflexion sur la liberté, les regrets, la rédemption. Et il tourne véritablement autour de personnages fort, qui navigue entre contraintes sociétales et désirs profonds. Alors avec Katabasis de R.F. Kuang, préparez-vous pour la thèse de votre vie littéralement. Pourquoi ? Parce que cet auteur donc de Babel et Yellow Face, pour ceux qui connaissent, donc, qui est universitaire à Yale, raconte l'histoire dans les années 80 à l'université de Cambridge de deux doctorants rivaux en magie analytique. Alors c'est une discipline intellectuelle et philosophique où Alice Lowe, ambitieuse et tourmentée par la culpabilité, et Peter Murdoch, qui est plutôt réservé. Et là, leur directeur de thèse, qui est le charismatique mais toxique professeur Jacob Grimes, meurt soudainement. Alors pour valider leur doctorat et avancer dans leur carrière, ils ont absolument besoin de ses recommandations. Leur solution, tout simplement une petite descente aux enfers, oui, vous avez bien entendu, pour récupérer son fantôme. Alors, leur quête les mène à travers les 8 cours de l'enfer, inspirés de Dante, donc avec son roman donc L'Inferno, de mythologie orientale, notamment bouddhiste et chinoise, avec le personnage de Yama, qui est cité dans le roman et qui est associé au juge des morts et d'idées philosophiques. L'enfer n'est pas un lieu de flammes spectaculaires, mais ici décrit dans le roman comme un désert gris existentiel, et qui est aussi le miroir de l'académie du roman, donc avec des hiérarchies interminables, des abus de pouvoir et des punitions. Kuang explore ici, je trouve, avec subtilité les thèmes comme le deuil, la culpabilité, la quête de rédemption. Alors ça reste un roman, certes intense, mais qui est aussi intelligent et poignant.
Merci beaucoup, Amy. Alors Vanessa, vous nous parlez d'un très beau livre, Un chien au milieu du chemin.
Oui, alors déjà merci de me recevoir pour cette première. Je suis contente d'être avec vous et de partager ça avec vous.
On est ravis de t'accueillir.
C'est gentil. Alors du coup, oui, effectivement, Un chien au milieu du chemin. Alors, livre qui a été écrit par Isabella Figueredo, qui est paru aux éditions Chandaigne et Lima fin août 2025. Et en fait, donc Isabella Figueredo, pour situer un peu, elle est née en 63 au Mozambique portugais. Et en fait, elle est arrivée au Portugal en 75, après la révolution des œillets, donc. Et donc, c'est là où va prendre place, en fait, ce fameux roman, Un chien au milieu du chemin, donc un très beau livre, sur lequel on peut voir, d'ailleurs, sur la couverture, deux personnes, de dos, un homme, une femme et un chien au milieu. Et donc cet homme qui s'appelle José, cette femme qui s'appelle Béatrice vont devenir voisins. Donc ça se passe à Lisbonne, donc dans le Lisbonne contemporain. Et ces deux personnes qui sont extrêmement intéressantes, pertinentes, en fait, c'est deux personnes qui sortent des sentiers battus. Lui n'a jamais travaillé, c'est quelqu'un de brillant, de très intelligent. Mais en fait, pour pouvoir vivre, ce qu'il fait, c'est qu'il récolte dans les poubelles les objets que les personnes jettent. Donc il y a une petite dénonciation de notre société consumériste. Donc, il récupère ses objets, il les nettoie, il les retape, il les étiquette vraiment très méticuleusement, c'est important, et il les revend. Et à côté de ça, on a Béatrice qui arrive, qui s'installe à côté de chez lui. Béatrice qui est très taiseuse, très particulière, et qui, elle, au contraire, a tendance à accumuler les souvenirs, les cartons, enfin, elle a énormément de choses chez elle. Et au début, ils vont se regarder un peu ses pieds, un peu de part et d'autre. Elle l'observe à travers sa fenêtre, en train de faire les poubelles, elle se questionne. Et un jour, Béatrice tombe malade et du coup, José va prendre soin d'elle, puisqu'elle est seule. Et de fil en aiguille, en fait, tout au long du roman, on suit une amitié en fait naissante, un peu timide au début, un peu sur la réserve, et qui va s'amplifier, s'intensifier tout au long du récit. On a un peu l'impression d'être spectatrice, d'assister en fait à la naissance de cette amitié qui est magnifique. Et ces deux personnes en fait vont se reconstruire. C'est un beau roman sur la reconstruction, sur le fait de sortir des sentiers battus, mais d'avoir sa place, en fait, quand même, malgré tout. C'est un roman de reconnaissance, puisqu'ils vont se reconnaître l'un l'autre. C'est un roman d'amitié, avec beaucoup d'enjeux humains. On parle de secrets, on parle de silence, de famille. Ça donne le goût de l'autre, et c'est un très beau roman qui donne de l'espoir en ces temps un peu compliqués. Donc, franchement, je vous le reconseille vivement, c'est un énorme magistral coup de cœur. Voilà.
Ça donne envie de le lire. Surtout que c'est vrai que la couverture est superbe.
Oui, et le toucher ouais. Du papier, c'est un magnifique objet livre, vraiment.
Et très original. Mmh. Ben, merci beaucoup Vanessa.
De rien, merci à vous.
On va passer à la musique maintenant. Avec un bel album pour terminer l'année, Nuée Ardente. C'est le troisième album de Birds on a Wire, le duo formé par Rosemary Stanley et Dom Lanena. Porté par le violoncelle vibrant de Dom et la voix envoûtante de Rosemary Stanley, qui était la chanteuse de Moriarty, ce disque explore avec intensité les élans et la mélancolie de l'adolescence. Des reprises libres et inspirées de tous horizons, qui revisitent allègrement des chansons de Bronski Beat, The Cure, Barbara. Cet album incandescent, intime, tisse un voyage musical atypique entre rock, folk, baroque et musique latino-américaine. Écoutons People Are Strange, When I Write, inspiré des Doors.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets aren't even when you're down. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets aren't even when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. Oh, people are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're wanted. Streets aren't even when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. From you, my
Alors là, je vais vous présenter mon grand coup de cœur là, de cette fin d'année. C'est 4 jours sans ma mère de Ramsès Kéfi. C'est un premier roman. Donc Ramsès Kéfi, c'était un journaliste à Libération. Et ce récit nous plonge dans le désarroi de Salmane, après le départ soudain de sa mère. Dit comme ça, ça peut prêter à sourire, car Salmane a 36 ans quand même. Mais cette disparition va provoquer une déflagration et une remise en cause complète de tout son quotidien. Salmane est franco-tunisien. Il est profondément attaché à son quartier, la Caverne, cité HLM de banlieue, entre ville et forêt, où il a ses repères, ses amis, sa vie. Il vit encore dans l'appartement de son enfance avec ses parents, dans un cocon rassurant auquel il contribue en payant un loyer depuis qu'il travaille dans un restaurant. Mais la disparition de sa mère, son signe annonçateur, change la donne. Le père, dès le lendemain, retire son alliance et vide l'appartement de ses affaires, plein de rage. Elle n'a laissé qu'un mot énigmatique, promettant de revenir sans préciser quand, ni où aller, ni pourquoi. Arrivent alors les doutes, les interrogations, les ragots dans le quartier. Salmane mène l'enquête, interroge son entourage, découvre une correspondance mystérieuse. Mais surtout, il entame une profonde introspection. Il réfléchit, il analyse, et il se repent en réalisant combien il a été égoïste avec sa mère. « Je suis un sous-fils », dira-t-il. Il préférait passer tout son temps libre avec ses copains, oubliant même de souhaiter l'anniversaire de sa mère, qui pourtant le sollicitait pour partager des moments simples. Le roman aborde avec justesse la tendresse discrète d'une mère dévouée, femme de ménage à la retraite, qui porte le poids de la famille sans reconnaissance et traite avec pudeur les silences de l'exil, les secrets de famille. C'est l'histoire d'une mère, d'un quartier, de ses habitants, un bouleversement nécessaire pour le père et le fils, obligés d'écouter enfin la mère, de comprendre le sens de sa fuite et de son silence. C'est sa façon à elle de reprendre la parole, un acte de révolte qui oblige les hommes de la famille à réagir. Et au fil du récit, Salmane prend conscience, les bulles éclatent, et il découvre sa mère en la cherchant. Il découvre ses origines familiales et bouleversé, il nous le raconte d'une façon bouleversante. Le départ de la mère le rend adulte. Ce récit intime et universel séduit par son style concis, sans fioritures, proche de l'oralité, avec des expressions épatantes, vraiment savoureuses, et sa sincérité sans prétention, et son humour à la fois désopilant et extrêmement touchant, plein d'autodérision. Tout est bien vu, juste, attendrissant, et on passe un excellent moment de lecture. Et on retourne vers une BD un peu plus sombre, là.
Eh oui, et pas qu'un peu. Donc Sibylline, c'est une lecture très différente de ce que je lis habituellement. Je vais être honnête avec vous. Moi, je suis plutôt feel-good, couleur, récit réconfortant. D'ailleurs, si je l'ai lu, c'est pas de mon plein gré à la base, c'est parce qu'une lectrice me l'a tellement recommandé que je me suis dit « Allez, je me lance !» Et je le remercie. Je vais pas vous mentir, au début, ça a été un peu difficile. Le noir et blanc, très sombre, peu de texte dans les premières pages. J'ai eu du mal à rentrer dedans, soyons clairs. J'avais presque l'impression d'être tenue à distance. Et puis, sans vraiment m'en rendre compte, quelque chose s'est installé tout doucement. Je me suis laissée happer. Et à un moment, je n'arrivais plus à lâcher le livre. On suit Raphaël, 25 ans, étudiante, serveuse, fauchée, épuisée, quelqu'un de très ordinaire en soi. Et c'est justement ce qui rend le récit si fort. Le choix qu'elle a fait n'est jamais traité de manière spectaculaire. Et c'est sans doute ce qui marque le plus le lecteur, cette absence totale de jugement. Alors je vous le dis, hein, son choix, c'est la prostitution. Graphiquement, le style est très marquant. Le trait est brut, parfois presque rugueux. On sent la matière, l'encre, le fusain. On sent que ça a été dessiné avec rage. Ça crée une intimité très forte, parfois inconfortable, mais toujours juste. Beaucoup de lecteurs parlent d'une BD qu'on ressent presque physiquement. Et je suis assez d'accord. Ce qui m'a touchée, c'est la sincérité du regard. Sixtine Dano ne cherche pas à choquer ni à provoquer. Elle observe, elle écoute, elle montre les doutes, les peurs, les moments absurdes, parfois même drôles. Et surtout, elle pose une question très contemporaine que beaucoup se reconnaissent à poser aujourd'hui. Comment on fait pour vivre dignement quand tout devient inaccessible ? La réception du public est très forte, parce que Sibylle parle de réalité, de précarité, mais aussi de dignité et de courage. Raphaël est un personnage qu'on pourrait croiser tous les jours à la boulangerie, et c'est précisément pour ça qu'elle marque autant. C'est une BD à lire lentement, à accepter telle qu'elle est, pas confortable, mais profondément humaine. Une lecture qui bouscule, qui reste longtemps en tête, et qui, même si ce n'est pas mon terrain de lecture habituel, m'a vraiment touchée.
Merci pour cette BD, Jessie.
Oui, je crois d'ailleurs que je t'ai convaincue, parce que tu m'as demandé de te la
passer. Ah oui, ouais, j'ai bien envie de la lire aussi, celle-ci.
Je suis en train de la lire, c'est rigolo. Justement.
Non, mais c'est un sujet qui pourrait être tout à fait d'actualité. Moi, j'avoue que les BD noires comme ça, j'ai un peu de mal, mais finalement, je m'y suis faite. Alors, on verra si toi, c'est pareil. Mais...
Ok.
À toi, Vanessa.
Ok, à moi. Alors, du coup, aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un deuxième livre donc, qui a été écrit par Walid Daka, qui s'appelle « Le secret de l'huile », publié aux éditions Terrasse. Et c'est un livre bilingue, donc première partie traduction française avec une traduction inclusive et deuxième partie en arabe. Et du coup, alors pour situer un peu Walid Daka, il est né en 61, Walid Daka, et c'était un militant indépendantiste palestinien. Il a été condamné en 86 pour avoir commandité, organisé le meurtre d'un soldat israélien, donc fait qu'il a toujours démenti. Et il est mort en 2024, donc après 38 ans d'emprisonnement, des suites d'un cancer. Et donc ce très beau livre, parce que c'est un objet livre en fait, il contient des illustrations à la fin. Il y a une carte aussi également à l'intérieur qu'on peut déplier pour situer un peu le récit. Et c'est à la fois un livre jeunesse, un conte pour la jeunesse, un conte philosophique. Donc c'est magnifique. Et dans ce récit, en fait, Walid Daka nous raconte l'histoire de Jude. Alors Jude, c'est un jeune garçon qui veut rencontrer son père en prison. En fait, il n'a jamais connu son père. Et il voudrait réussir à pénétrer l'enceinte pour faire enfin sa connaissance. Et ça, c'est vraiment inspiré de la vie de Walid Daka, puisqu'il a réussi à avoir une petite fille avec sa femme, alors qu'il était emprisonné. Enfin, voilà, ils ont réussi à avoir une petite fille ensemble. Et donc, dans ce récit, en fait, Jude va se faire des amis animaux. Donc, il y a toute une pluralité de personnages, de personnalités. Et ces amis animaux, il est le seul à pouvoir communiquer avec. Parfois, sa mère lui demande, mais à qui parles-tu ? Et en fait, c'est très beau parce qu'à la fois, on sent l'innocence de la jeunesse. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, il va rencontrer ses amis animaux. Et un olivier qui est centenaire. Et en fait, cet olivier centenaire détient au creux de son tronc le secret de l'huile. Donc évidemment, je ne vais pas vous dévoiler ce qu'est le secret de l'huile, mais avec ses amis et donc cet olivier, il va élaborer un plan pour réussir à pénétrer dans la prison, aller rencontrer son père. Et donc à travers cette quête, il va découvrir finalement, tout en cheminant au gré de l'évolution du récit, qu'est-ce que le secret de l'huile, qu'en faire, comment le rendre utile pour son peuple. Et c'est très beau, parce que la voix de Jude en fait, nous pose un récit qui porte les voies de la libération. Grâce à l'émancipation de son peuple. Et ça se fait grâce au savoir. Et donc, du coup, je vous conseille vivement de le lire, et même de le lire à des enfants. C'est totalement adapté, c'est très court. Et c'est un grand, grand, grand texte. Voilà.
Trop bien, parce qu'en plus, c'est bientôt Noël. Alors, si comme moi, vous n'avez pas fini vos achats, ça peut être...
Venez me voir à la librairie, je serai là.
Très bonne idée cadeau pour tout le monde, en fait.
Oui, exactement, pour les petits et grands-enfants.
Super, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Alors, quant à moi, je vais vous présenter un ardent désir de peindre de Louis Mercadier. Alors, préparez-vous pour une épopée artistique. Qui sent bon le Gévaudan du XVIIIe siècle avec un zeste de rébellion, sans bestiole, mais avec une tonne de pigments. Alors, comme j'aime l'art et que je pratique la sculpture, la peinture, le dessin, à mes heures perdues, je me suis beaucoup intéressée à ce roman de cette année que je voulais vous faire découvrir ou peut-être découvrir. Et c'est un roman où Florine rêve de palettes et de bleu outre-mer. Et dans cette contrée où le mariage arrangé est le seul horizon permis aux jeunes filles, Florine, gâtée par une grand-mère avant-gardiste, décide que sa destinée est sur la toile, pas au pied de l'autel. Alors refuser un mari à l'époque, scandale, mais le destin facétieux lui fait rencontrer un peintre qui pourrait peut-être bien être son ticket de sortie vers une vie d'atelier. Alors pensez émancipation féminine version coup de pinceau et lutte contre les contraintes sociales avec un crayon à la main. Alors j'ai beaucoup aimé que ce soit à la fois romanesque, instructif sur l'art, les coutumes, enfin aussi sur les coutumes rurales, mais aussi le fait que l'auteur rend hommage aux femmes invisibles de l'histoire, parce que c'est vraiment un thème récurrent chez Mercadier, qui avait déjà écrit sur des figures féminines remarquables donc de l'Aveyron. Mais également sur l'opposition entre le monde rural rigide de Gévaudan et les aspirations individuelles. Alors l'auteur mêle ici fiction et histoire réelle, avec des techniques de peinture, donc ça c'était bien pratique, sur les monuments, les artistes de l'époque, comme sous Louis XIV ou le début du siècle des Lumières. Et Florine, je trouve qu'elle incarne la révolution, la révolte intérieure aussi, la persévérance. Et là, on voit que la peinture, pour elle, c'est vraiment pas un hobby quelconque, mais c'est un ardent vraiment désir, enfin, c'est un désir vraiment vital, presque une vocation qui donne sens à sa vie malgré les sacrifices qu'elle peut rencontrer, ou qu'elle peut faire. Et c'est une ode pétillante au courage des femmes qui osent suivre leur cœur et leur talent. C'est un hommage cocasse aussi à la force de l'art comme échappatoire. Et Mercadier nous offre un récit qui, je trouve, décoiffe entre tradition rurale, passion dévorante, prouvant qu'un ardent désir peut changer le monde, ou au moins celui d'une artiste en devenir. Alors, vraiment, je vous le conseille.
Merci, Amy.
Merci beaucoup, Amy.
Alors moi, je vais vous parler, pour le dernier roman, ce sera un polar, Brûler tout, de Christophe Molmy. Je vous propose de plonger dans l'univers haletant de ce polar, qui est le dernier roman de cet ancien patron de la BRI parisienne et désormais à la tête de la Brigade des mineurs. Brûler tout, c'est son 7e policier et il vient d'obtenir le prestigieux prix du Quai des Orfèvres 2026, décerné chaque année par un jury composé de policiers, magistrats et journalistes. C'est un thriller d'une actualité brûlante où les réseaux sociaux deviennent le théâtre d'une violence inédite. L'intrigue principale, un mystérieux groupe anarchiste et terroriste complotiste, dénommé les Watchmen, sème la terreur. Revendique une série d'attaques spectaculaires, incendie d'une permanence politique, explosion d'un relais 5G, agression d'un essayiste célèbre, menace contre un avocat, le tout orchestré et diffusé en direct sur les réseaux sociaux sous les yeux d'une France sidérée. Derrière ces actes, un complotisme radical, une fascination pour le chaos et la puissance dévastatrice des nouvelles technologies, notamment l'IA, qui devient le terrain de jeu des pires criminels. L'auteur s'est inspiré de l'histoire d'un homme il y a quelques années qui avait flirté avec des groupuscules d'extrême droite sur des projets d'assassinat et qui voulait prendre le pouvoir. Et ça fait écho à ce qui s'est passé au Capitole. Au cœur de l'enquête, Colline, une jeune gardienne de la paix déjà croisée dans les deux précédents romans de l'auteur, elle fait ses premiers pas à la brigade criminelle. Et avec son chef Sacha, flic à l'ancienne, elle plonge dans les méandres du complotisme, de la radicalité et des dérives du dark web. Le roman explore avec réalisme les méthodes policières, les ambitions personnelles, la guerre des polices, le prix à payer pour protéger une société avide de sensationnel, souvent prompte à juger sans savoir et portée par un journalisme en quête de scoop. Si le style reste classique et qu'il ne révolutionne pas le genre, c'est un polar solide, ample, avec une enquête bien ficelée et documentée, où l'immersion dans le quotidien de la PJ est totale. On y découvre des enquêteurs crédibles, humains, investis, confrontés à leurs propres failles. Les événements se succèdent à un rythme infernal et il devient impossible au lecteur de déposer le livre, tellement il a hâte de découvrir la suite. Donc si vous voulez lire un polar, vraiment haletant, Il est très très bien. Voilà, on arrive à la fin de cette émission et je ne vous ai pas préparé, mais comme la fin d'année, c'est souvent le bilan. Est-ce que vous pensez comme ça, le roman que vous avez préféré cette année, le film, quelque chose que vous auriez envie de citer là aujourd'hui?
Moi, ça reste ma BD que j'ai présentée la dernière fois, Le Grand Froid, qui reste ma grosse claque cette année, une BD sans texte.
Ok.
Purement poétique, où tout est dit sur la relation intergénérationnelle et le devoir de mémoire, enfin la transmission. Voilà, c'est ma claque de cette année, je vous l'avais dit à la dernière émission, mais j'en démords pas.
Super. Amy, t'as une idée ?
Moi, c'était une bande dessinée qui s'appelle « Dans ses yeux » de Marc Cuadrado, qui est vraiment exceptionnelle aussi, parce que ça permet justement de changer de regard aussi, voilà, sur le monde et... aussi, voilà, sur... Enfin, il est plein d'espoir, donc voilà, j'ai beaucoup apprécié.
Super. Et Vanessa ?
Alors, bon, moi, un chien au milieu du chemin, hein, voilà. C'est le coup de cœur, le coup de cœur. Sinon, en termes de film, je serais plus en série, Empathie. Empathie, c'est ma série de l'année. Florence Lompré, incroyable, magistrale. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a... un peu briser une partie du cœur, quoi. J'avais l'impression des fois de perdre des petits morceaux de cœur comme ça au gré des épisodes. Et voilà, je pense que c'est les deux choses marquantes. Du coup, le chien au milieu du chemin, ça permet de rebondir avec quelque chose qui donne espoir, qui fait du bien. C'est un doudou. Voilà.
Et toi, Anne, parce que c'est bien de nous poser des questions.
Ouais, bah oui.
Et toi,
alors, Empathie en série, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Ouais. En film, Une bataille après l'autre, que j'ai adoré. Et puis, ben, en livre, je partageais entre La Maison Vide, donc de Laurent Mauvignier, et puis Quatre jours sans ma mère, de Ramsès Kefi.
Très bien. Très bien.
Donc, demain, samedi, non, samedi d'après, on a le temps encore.
On a encore un peu le temps.
Oh là là, on a les fêtes avant. Mais samedi 3 janvier à 17h, on aura un nouveau Café Philo des Petits Socratiques. Le thème « Interpréter pour mieux comprendre », une séance animée par Marie-Danielle Soncourt.
Ils sont courageux en 3 janvier. Je ne suis pas sûre qu'on ait l'esprit très proche pour faire de la philo. Moi, je vais vous parler, si vous n'avez pas suivi sur les réseaux, depuis le 1er décembre, on a 3 petits lutins qui ont débarqué dans nos 3 bibliothèques. Alors, ils passent d'une bibliothèque à l'autre avec une aisance que moi, j'aimerais bien avoir pour quand on fait du service public, n'est-ce pas, chers collègues ? Mais ces 3 petits lutins, on a réussi à leur donner un petit prénom, puisque ce sont les enfants des bibliothèques qui ont voté. Du coup, ils ont des noms petits, un petit peu sucrés, vous pourrez aller voir. Je vous recommande de vous inscrire sur nos réseaux pour pouvoir suivre leur petite malice, parce qu'ils en ont fait des bêtises. En gros, tout ce qui est interdit en bibliothèque, ils l'ont fait. Donc, je pense qu'on a bien rigolé, parce que pour l'anecdote, on a fait ces photos en plein mois d'août. On a beaucoup anticipé, mais voilà, on s'amuse beaucoup. Voilà. Et je suis déçue de ne pas les avoir pris aujourd'hui, parce que je pense qu'ils auraient aimé raconter au Père Noël leur journée à la radio.
Et à la rentrée, on aura une nouveauté aussi par rapport aux jeux de société. Nous mettons en place des sessions de jeux en bib en famille. La première est le mercredi 21 janvier à Saint-Corneille. Et là, pour une fois, les parents peuvent venir jouer avec les enfants ou non. Ils peuvent venir aussi s'ils n'ont pas d'enfants, d'ailleurs.
Oui, tout à fait, Anne. C'était une demande de nos lecteurs, parce que c'est vrai qu'on faisait les jeux en bib par catégorie d'âge. Alors parfois, les parents qui ont des enfants de différents âges, c'est un peu compliqué. Et puis une petite frustration. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je suis maman et j'avais envie de jouer aussi. Donc, je pense qu'on est toutes pareilles. Et du coup, ce sera une édition familiale. Donc, ça reviendra de manière régulière.
Et oui. Et le prochain apéro culture, on se retrouve à la bibliothèque le samedi 17 janvier à partir de 11h. Et notre prochaine émission sur notre émission préférée, sur notre radio préférée Graphite, le vendredi 23 janvier à 18h également. On vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël.
N'abusez pas trop du chocolat.
Et on se retrouve donc le 23 janvier.
En 2026.